Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là. Et oui, pour cette émission de C'est bon pour la santé, on est ensemble pour les 30 prochaines minutes. On en parle souvent à l'intérieur de cette émission, la pratique d'une activité physique, ben c'est nécessaire pour un mode de vie sain, une bonne hygiène de vie. Et c'est à peu près vrai pour tout le monde, et notamment les personnes trisomiques qui peuvent trouver de nombreux avantages à la pratique du sport, d'une activité physique, et peut-être même plus, car ils seraient plus à risque de développer certains problèmes de santé liés à la sédentarité, entre autres. Et ce que l'on dit, c'est que c'est même préférable qu'ils débutent plus tôt en bas âge. Ça faciliterait leur croissance. Donc, on en parlera tout à l'heure davantage avec Geneviève Labrec, elle qui est directrice du regroupement pour la trisomie 21, car il lance cette initiative qui s'appelle « Les mardis en forme ». Et puis, en ce sens, je continue un petit peu sur la même vague pour vous dire que cette pratique d'activité physique, elle est favorable également pour les personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Lorsque l'on sait notamment qu'un jeune ayant un TSA a 40 % plus de probabilité d'être obèse qu'un jeune qui n'aurait pas cette limitation-là. Pourquoi? Ben oui, par le manque d'activité physique, mais également lié aux habitudes alimentaires qui seraient parfois un petit peu plus spécifiques. Donc, sélectives, là aussi, je pense que c'est important de le noter. J'ai envie de parler avec Jean-Paul Grelier, lui qui est éducateur physique spécialisé, kinésiologue également, entrepreneur en activité physique adaptée auprès d'enfants autistes. Il accompagne ces jeunes-là en quête d'un mode de vie plus actif. On lui parle à l'instant. Jean-Charles, je vous ai appelé Jean-Paul, mais vous êtes M. Grelier, Jean-Charles de votre prénom. Merci d'être là.
Merci à vous.
Jean-Charles, vous dites que vous croyez en l'impossible et vous avez pu prouver qu'il est possible de faire bouger des jeunes, des gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme.
Oui, à partir du moment où on pense qu'on est fait déjà pour l'impossible. Et c'est là qu'on peut réaliser de grandes choses, en fait. Et avec le spectre de l'autisme, je ne vois pas ça, en fait, comme un handicap ou une maladie. Je vois déjà, je me mets toujours dans l'objectif de voir ça comme une expertise avant tout, et puis un surfonctionnement perceptif. Mm-hmm. Et donc, après, c'est à moi de m'adapter et de faire en sorte que je ne vais pas forcément adapter les activités physiques ou les sports. Ouais. C'est moi qui m'adapte, ma façon d'être.
Oui. Donc, vous ne voyez pas l'autisme comme une limitation?
Non.
C'est une possibilité en soi?
Il faut prendre en compte, il faut bien connaître l'autisme, sinon ça va déclencher des limitations. Mm-hmm. Mais quand je suis en cours avec les enfants, c'est bien connu scientifiquement qu'il y a des maladresses gestuelles, des problèmes de coordination dus à des problèmes au niveau du cervelet. Mais je fais en sorte qu'il n'y en ait pas. Et puis à partir de là, on peut faire tout. On peut tout déclencher parce que souvent même, on se trompe souvent, on pense qu'ils ont des limitations et ils ont des capacités des fois même hors normes qui dépassent même les enfants non autistes.
Mm-hmm. Ils ont peut-être une façon d'apprendre différente. Je me fie à cet article paru dans la Presse Plus où l'on parlait de vos services, de votre approche. Une maman qui dit, j'ai tenté les cours réguliers en natation, mais ça convenait pas. Le rythme était un petit peu trop rapide pour mon fils. Avec Jean-Charles, ça fonctionne mieux parce que, encore, et je reviens à ce que vous avez dit, vous vous adaptez au rythme de l'enfant.
Voilà, c'est ça. Et donc, une chose importante, c'est que je dénature pas les activités.
Ouais.
C'est-à-dire que je vais respecter la logique interne de l'activité, puis je vais pas forcément... Le matériel qui est souvent conçu pour pédagogiquement pour certaines activités, je l'utilise pas de la même manière. Mm-hmm. Et par exemple, je vais pas mettre de flotteur en natation au niveau des bras. je vais les mettre au niveau des jambes pour que ça déclenche tout de suite au niveau didactique la propulsion des membres supérieurs.
Mm-hmm.
Et par exemple, je ne mets pas de roulette au niveau des vélos. Je veux leur faire sentir c'est quoi la sensation du vélo. Et une chose qui est très importante, ça a même été prouvé scientifiquement, c'est qu'on ne doit pas décontextualiser les choses. On doit rester dans le sens. Pour les enfants aussi, c'est très important le sens. Et donc, en fait, si on a tendance à faire ça dans le milieu du sport ou dans plein de domaines, dans la musique, on décompose. Mais très rapidement, si on le fait, il faut vite revenir dans le contexte. Par exemple, si on met des palmes, il faut tout de suite refaire l'exercice sans les palmes.
Okay.
Et donc, il faut éviter même souvent, c'est ça que je fais en vélo, de tout décomposer.
Mais en même temps, si l'on met des roulettes au vélo, l'enfant apprend jamais à tomber, apprend jamais l'équilibre.
Voilà, c'est ça.
Donc, vous allez chercher ça aussi, qu'ils vivent cette expérience comme n'importe quel enfant.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Et ils ont le sentiment aussi au niveau de la confiance en soi. Donc, comme je reste dans la relation aussi, puis dans la confiance en soi, très rapidement, ils peuvent déclencher des choses à partir de là.
Ben, j'ai envie aussi de revenir sur cette notion de relation. Vous parlez de confiance en soi, mais il y a la relation aussi de confiance qui s'installe avec vous. Je reviens à cet article encore dans la Presse Plus où vous dites « on se tient par la main, on saute dans la piscine, on vit cette sensation-là de remonter ». Évidemment, l'enfant, au départ, il peut avoir peur, mais à un moment donné, il sait que vous êtes là avec lui, que vous continuez à tenir la main. Ça, j'imagine que ça crée aussi l'apprentissage, la notion de confiance.
Ah oui, oui. Puis la relation, comme je le dis souvent, c'est ça prime avant l'apprentissage, en fait, tout ce qui est confiance.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, c'est une approche humaniste. Donc,
ouais.
c'est vraiment... pour moi, j'ai pas des méthodes, j'ai plein de méthodes, mais c'est surtout une approche. Donc, les techniques, j'en ai. Mais ce que je prime avant tout, c'est ma manière d'être, en fait, avec eux et de les accompagner.
Mm-hmm.
Comme vous avez pu lire dans l'article où je me conçois comme un spoutnik.
Oui, oui,
c'est-à-dire
oui.
C'est-à-dire que...
quelqu'un qui accompagne.
C'est ça, le pédagogue, en fait. Autrefois, c'était un esclave dans la Grèce antique qui accompagnait les enfants sur le chemin de l'école.
Mm-hmm.
Et donc, moi, c'est l'enfant qui est plus important. Et donc, je gravite autour, dans l'eau, sous l'eau, autour du vélo, autour d'un ballon. Et donc, après, c'est eux qui manipulent les objets.
Mmh. C'est quoi les besoins de ces enfants-là lorsqu'il est question de bouger, lorsqu'il est question d'activité physique?
Mais ils ont tous les mêmes besoins que les enfants ordinaires. Mais en plus, il y a quelque chose de très important, c'est que c'est encore plus bénéfice. Il y a plus de bénéfices pour eux en termes de sur le plan cognitif. C'est-à-dire qu'on sait qu'au niveau des fonctions exécutives, les fonctions sensorielles et la communication, ça va avoir un impact énorme. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je détaille au niveau des fonctions sensorielles. Les fonctions, en fait, exécutives, pour moi, c'est très important parce que ça permet, en fait, aux enfants d'adapter leur comportement dans un contexte. Et donc, en fait, ça travaille tous les processus cognitifs qu'on a besoin à l'école. Donc, même dans la vie quotidienne, l'anticipation, la planification, l'organisation, la pensée abstraite, ça permet de... Donc, tout ça, c'est grâce à l'activité physique avec une légère connotation sportive.
Jean-Charles, si l'on donnait un exemple, par exemple, un jeu de ballon peut favoriser tous ces apprentissages-là?
Voilà, oui.
Oui?
Mais il faut éviter, par contre, de les emmener trop vite dans les sports collectifs.
Ah oui.
Car il y a beaucoup de choses à décoder. Il y a beaucoup de nuances sociales et tout ce qui est socio-moteur dans les jeux collectifs, c'est pas forcément tout de suite une chose à faire en premier. C'est pour ça que j'utilise une approche individuelle.
Mm-hmm.
Et ça a été prouvé qu'il y a beaucoup, même l'approche individuelle, c'est ça qui est très intéressant pour que les parents sachent que souvent, moi, on m'appelle et on pense que mettre des enfants dans un groupe, ça va les socialiser.
Ouais.
Alors que non, il faut d'abord faire l'individuel, une approche individuelle. Et après, à partir de là, quand on est dans un duo, c'est à partir de là qu'ils vont se socialiser. Et ils ont prouvé scientifiquement qu'avec les enfants autistes, que quand les approches individuelles ont plus de répercussions au niveau social que les activités de groupe.
Et quel est le parcours après pour arriver au groupe? C'est parce que la confiance en duo a pu se créer?
Mais il faut travailler, comme ce qu'on fait aussi au jour de plus en plus, c'est la littératie physique, c'est-à-dire tous les fondamentaux moteurs. Et quand on a fait ça avec des enfants, même il faudrait le faire avec les adolescents le plus possible, il ne faut pas s'axer trop rapidement vers un sport.
Mm-hmm.
Et une fois qu'on a touché à tout, là, on a une expertise au niveau psychosensorimoteur et ça permet d'être prêt à faire plein de choses. Et quand vous me parlez de cette question au niveau des sports collectifs, il y a des exceptions. Il y a des enfants autistes, tout de suite, ils vont être attirés par les sports collectifs. Il ne faut pas les empêcher de le faire.
Mm-hmm.
Ils vont être fascinés souvent par le score ou être par dernièrement j'ai vu dans la presse par l'arbitrage. Ouais. Ça peut être mais au niveau des sports collectifs, il y en a certains qui ont prouvé que ils savent se démarquer mieux que d'autres enfants qui sont pas autistes. Ouais. Parce qu'ils voient le jeu dans l'ensemble.
Donc si j'entends bien, ça reste toujours une démarche de cas par cas.
Oui.
Vous rencontrez l'enfant, vous vous adaptez à ses besoins, à ses envies. S'il vous dit « je veux jouer à tel jeu » ou « à tel bon, je vais faire tel sport », vous y allez avec ça, mais l'objectif, c'est toujours de le faire expérimenter plein de choses.
Mais je suis quand même dépendant des infrastructures sportives. Je suis comme un travailleur de rue, moi. Je suis dans les parcs, je m'adapte dans les horaires des piscines publiques.
Donc, d'ailleurs, c'est une limitation un peu pour vous, ça, dépendre parfois des infrastructures. Puis, ce n'est pas toujours non plus accessible du point de vue monétaire.
Donc, j'ai un sac avec plein de matériel dedans et je vais dans un parc et puis on peut faire 9 activités en une heure. Ça, c'est très important s'il ne faut pas rester longtemps sur une activité. Il y a certains enfants vont rester 10 minutes seulement sur une activité et puis il faut tout de suite changer. Donc, la variation des tâches est très importante chez les enfants autistes.
Est-ce que vous devez établir avec l'enfant, ou du moins pour vous-même, en fonction de l'enfant, des objectifs bien précis?
Mais oui, j'ai toujours des objectifs en fait pour chaque enfant et puis ça se définit à chaque fois en fait, à chaque séance et c'est différent à chaque fois. Je compose. Il faut être un artiste en fait à chaque enfant parce que je sais jamais à quoi m'attendre selon le contexte, selon qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il arrive, comment il est, dans quel état. Donc il faut composer avec.
La notion de plaisir, c'est important.
Oui, c'est la base de tout de l'éducation en fait. On a trop tendance à être axé sur des objectifs d'apprentissage, à des acquisitions de connaissances, alors qu'on oublie que le sens même de l'éducation, le premier, c'est le sentiment d'exister réellement, donc le plaisir.
Oui. Et j'imagine la notion de jeu, d'avoir l'impression de jouer et pas de lancer un ballon pour apprendre telle ou telle chose.
Oui, le jeu, aujourd'hui, c'est prouvé avec les neurosciences cognitives que c'est le meilleur vecteur d'apprentissage. Donc, en fait, c'est naturel, c'est spontané et il ne faut pas justement casser ce rythme. Et quand on casse ce rythme, c'est souvent là que l'enfant va devenir paresseux ou il va arrêter d'apprendre, en fait. C'est
un peu frustré, non?
Oui, le jeu, c'est... On laisse un enfant libre, il va apprendre de lui-même. Et ça, chez les enfantistes, ils sont déjà autodidactes.
Ouais.
C'est-à-dire que la majorité, il y a quand même des choses, même si tous les enfants autistes sont différents, on l'a même prouvé qu'ils sont même encore plus différents que les enfants non autistes, entre eux. C'est-à-dire que moi, je me suis occupé de jumeaux. Et ils avaient un profil cognitif complètement différent.
Et les deux vivaient avec un trouble du spectre de l'autisme.
Voilà, c'est ça.
Okay.
Donc, il faut s'adapter d'une séance à l'autre. Il ne faut pas faire la même chose. Et puis donc, ce qui est important aussi à comprendre, c'est l'apprentissage, il est implicite. Il ne faut pas rester trop longtemps dans un discours explicite.
Qu'est-ce que vous entendez par là?
C'est-à-dire qu'il faut... Il faut rester... Il y a une apparence, en fait, quand ils apprennent, on a l'impression qu'il y a un déficit ou une apparence de manque. Mais leur cerveau crée des prototypes. Et donc, il faut les... C'est pour ça que quand je parle de satellites humains, là, je les accompagne. En fait, je les accompagne parce qu'ils ils apprennent par eux-mêmes. Donc, il y a une liberté motrice.
Ah, oui.
Et spontanément, physiologiquement, il se produit des choses. Mais il ne faut pas non plus être non directif. Ce n'est pas de la pédagogie de la découverte. C'est-à-dire que j'impose aussi des choses. Je les dirige vers des endroits.
Oui.
Mais il ne faut pas trop insister, il ne faut pas être trop directif, il faut être semi-directif en fait.
C'est plus de l'ordre de la proposition.
Voilà.
Oui,
oui, c'est ça.
Jean-Charles, quels sont les bienfaits du point de vue de leur santé globale? Est-ce que vous pouvez observer concrètement des choses, ne serait-ce que dans la mobilité, l'équilibre? Est-ce qu'il y a des résultats à quelque part?
Oui, ben, au niveau de la santé, de la condition physique, par exemple, j'ai un exemple d'un enfant que je m'occupe depuis 2 ans et demi. Et en fait, on fait beaucoup d'apnée tous les dimanches. Et en fait, c'est un enfant qui était né avec des problèmes pulmonaires. Et donc, en fait, il est prématuré. Donc, en fait, il était suivi en pneumonie. Et donc, à force de faire de l'apnée continuellement, maintenant, il n'a plus besoin d'être suivi. Mais c'est pas de l'apnée, il faut faire attention, il faut que ça soit très pédagogique parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'impliquent dans l'apnée en fait.
Donc ça, c'est la preuve d'un résultat extrêmement concret. Et on parle pas de médication là, on parle d'une activité de loisirs, d'une activité sportive qui peut améliorer la capacité physique, la condition physique de quelqu'un. C'est assez majeur. Les parents, quel est le contact avec eux? Eux, j'imagine qu'ils arrivent avec des attentes, des désirs. Est-ce que vous devez les écouter? Est-ce qu'ils sont aussi partie probante du développement de l'enfant ou vous les laissez un petit peu à l'écart?
Non, ils sont toujours avec moi.
Ah oui?
En fait, donc ils participent avec moi. Et donc, en fait, ils aiment ça parce qu'en même temps, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je suis devenu une sorte de consultant. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça aussi. C'est-à-dire que en m'observant, et ça leur donne des idées. Et puis même, ils aiment voir les progrès de leur enfant. Et puis, il y a une bonne interaction aussi en même temps.
Et le parent peut continuer peut-être les activités à la maison lorsque ça plaît à l'enfant?
Ça, par contre, c'est pas forcément facile au début parce qu'en fait, si je fais du travail la semaine avec eux, puis qu'après, ils essayent de reproduire les choses, ça marche pas forcément. Mm-hmm. Parce que j'ai vraiment une approche qui est particulière avec eux.
Ouais.
Je me connecte avec eux, en fait. Et être un parent, c'est pas la même chose, en fait. C'est pas forcément un intervenant. J'agis presque comme une sorte de grand frère, en fait.
Ouais,
Je suis pas un parent.
Jean-Charles, dans votre vie d'avant, vous aviez un autre boulot où des collègues vous disaient « Bah, t'arriveras jamais à rien avec tel enfant, oublie ça. » Vous tentez de prouver au quotidien, bon, on le disait en début d'entrevue, il n'y a rien d'impossible. Est-ce que vous avez été déjà confronté à des situations où c'était pas possible d'arriver à quelque chose?
Non, il y a toujours quelque chose de possible. Non, il y a toujours quelque chose de possible. Même des choses, les mettre sur un vélo, ils ne pédalent pas, c'est parti, je pars avec eux.
Ouais.
Il y a toujours une manière de trouver un contexte, de déclencher la motivation chez eux, intrinsèque et non pas extrinsèque.
C'est quoi votre plus belle réussite?
Ben déjà, quand j'ai commencé en tant que stagiaire en France, il y avait une enfant qui s'était mis à écrire et à lire suite à l'apprentissage du vélo.
Hein?
Son enseignante me l'avait dit. Et parce que ça avait eu un impact, c'était la seule de l'école qui ne savait pas faire du vélo. Je l'ai accompagnée pendant un an. Et donc, ça a eu un gros impact. Il y a eu d'autres enfants aussi que personne ne voulait s'en occuper parce qu'ils cassaient tout. C'était très, des grandes expériences.
Et donc, l'accomplissement dans une activité, par exemple, de pouvoir faire du vélo, peut changer tout le rapport à l'éducation, à notre présence en classe, à l'apprentissage
de la
lecture.
Ah oui, ça a des répercussions, c'est des transferts. Donc, c'est évident que ça a des répercussions partout dans la vie quotidienne. En fait, juste une réussite, une petite réussite, que ça devient très, très important.
Boule de neige.
Puis le corps, on oublie souvent le corps. On voit que le corps comme un instrument. Mais le corps, c'est aussi important que l'esprit, que le cognitif. Et c'est à partir du corps que le cognitif se fait.
Jean-Charles, est-ce que vos services ou votre approche, je préfère ce terme-là, peut également aider d'autres personnes, d'autres enfants qui ne vivraient pas avec un TSA, mais peut-être d'autres défis?
Oui, mais je me suis occupé, moi, avant, pendant des années, j'ai travaillé avec des jeunes qui avaient une déficience intellectuelle. J'ai même travaillé, même avec les enfants ordinaires, ça marche. C'est une approche humaniste. Donc, même mes méthodes d'enseignement que je fais, je suis sûr que je l'ai déjà testé, c'est plus rapide que donner des cours de natation dans certaines piscines, en fait. Parce qu'au bout de même pas quelques minutes, l'enfant saute dans le grand bassin. Et il met la tête sous l'eau, alors qu'il faudrait des tonnes de cours pour arriver à ça pour certains.
En terminant, qu'est-ce que vous diriez à des parents qui nous écoutent et peut-être un peu à l'instar de cette mère dans cet article, je reviens à la presse plus, qui dit « Ben moi, j'ai essayé les cours réguliers de natation, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il faut absolument aller dans une méthode qui est alternative ou continuer à essayer différents cours? » Qu'est-ce que vous diriez à ces parents-là?
Malheureusement, ça fait des années que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans mon domaine. En fait, les gens qui aiment le sport ou l'activité physique ne sont pas attirés par l'autisme. Mais c'est en train de changer, j'espère. C'est deux mondes en fait, qui doivent coexister et c'est sur le point de se faire, en fait. Mais il faut qu'on voit l'activité physique d'une autre manière, qu'on ne confonde pas le sport et la santé.
Oui.
Voilà.
Et en même temps, le taux de prévalence est sans cesse en augmentation.
Oui,
là,
c'est ça.
Pour l'autisme,
donc il faut qu'il y ait
faut
de plus en plus de gens qui soient formés, en fait.
Voilà.
Et on peut former de plus en plus les gens dans les piscines, dans tous les endroits où il y a de l'activité physique, même si ce n'est pas des professionnels qui ont été formés à l'université comme moi.
On peut également aller à votre rencontre. Je laisse votre site J.C. Grelier, kinésiologue, /home. On laissera également là, le site, votre site web sur le nôtre, Jean-Charles Grelier. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présence.
Bien, je vous remercie beaucoup pour cette émission.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Geneviève Labrec, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Bonne année 2016 à vous, Geneviève.
Bonne année à toi aussi.
On se souhaite quoi?
Ah, de la santé. Le reste, on va s'organiser.
Geneviève, les Mardiens en forme, initiative du regroupement pour la trisomie 21, dont vous êtes la directrice générale. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est une nouvelle initiative?
En fait, ça fait 3 ans qu'on a parti cette activité-là. Elle s'est un peu transformée avec les années, mais je vous dirais que là, la dernière mouture qu'on a, c'est celle là, qui correspond vraiment à ce qu'on a envie de faire.
Mardi en forme pour faire bouger les enfants trisomiques. Et je le disais d'entrée de jeu dans mon introduction, Geneviève, ce sont des enfants qui sont plus à risque de développer certains problèmes de santé liés à la sédentarité. Vous nous l'avez déjà dit sur ces ondes. Donc, notamment encore plus important de trouver des moyens de les faire bouger puis que ça soit le fun.
Exactement. En fait, souvent, les personnes qui ont une trisomie 21 ont des problèmes physiques. Puis, en vieillissant, ça va être pire, ça va se développer ça va plus difficilement. Donc, par exemple, il y en a qui ont des problèmes avec leur hypotonie musculaire. Donc, leurs muscles sont un petit peu plus mous. Si on ne bouge jamais, ça ne va pas aider la musculature. Donc, il peut arriver des problèmes reliés, par exemple, à la respiration et de l'embonpoint, comme la population en général. Donc, de les faire bouger petits, ça va bien, mais rendu quand ils pognent autour de 6-7 ans, c'est un petit peu plus un beau défi, en fait.
Et d'ailleurs, l'activité s'adresse à des enfants qui ont 8 ans et plus. Est-ce que c'est pour cette raison-là?
Oui, alors souvent quand ils sont petits, on peut facilement les inclure dans les, par exemple, les cours de la ville de Montréal pour l'activité physique, soit la natation, même petit pour le soccer, des activités comme ça, ça se fait bien. Mais en vieillissant, leur capacité physique, on constate que c'est pas le même qu'un enfant qui est typique. Donc la différence est tellement importante que le jeune se décourage, vit plus de réussite et l'estime de soi se trouve affectée.
Oui. Également, les familles sont les bienvenues. Les frères, les sœurs aussi, la fratrie, c'est important de faire participer tout ce beau monde-là avec les enfants trisomiques?
Oui, en fait, nous, dans nos valeurs, on a beaucoup des valeurs d'inclusion. Et là, on se disait, comment on va faire pour faire une activité de sport inclusive? Donc, on s'est dit, on va inclure la famille, frères, sœurs, dans le groupe. Donc, par exemple, là, l'activité comme telle, c'est qu'on loue un gymnase de la ville et on s'installe et on fait plusieurs jeux. Et là, les parents sont invités à rester, les frères et les sœurs aussi, et toute la famille participe au jeu. Donc, on se retrouve avec plusieurs personnes avec des capacités physiques complètement différentes et beaucoup de plaisir.
Pourquoi, Geneviève, vous dites que cette nouvelle mouture 2016 est peut-être la meilleure?
En fait, on a testé plusieurs façons de faire et au départ, on a essayé des jeux. On ne savait pas trop vers quoi s'enligner. Là, on a trouvé un gymnase qui est très grand et qui n'est pas très bruyant. Donc, on n'entend pas, c'est pas très écho parce que souvent, les personnes qui ont une trisomie 21 peuvent avoir des problèmes auditifs, entendre moins bien. Alors, quand c'est très écho, ça devient plus difficile. Et on a pris de l'expérience aussi, nos intervenants sur place, et même les parents qui sont présents depuis 3 ans ont pris de l'expérience. On sait comment faire des jeux qui sont plus inclusifs. On a testé, par exemple, on fait des des parcours moteurs au sol. Il y a des fois que c'est pour certains jeunes qui vont avoir plus de défis au niveau visuel, ça va être plus difficile. Donc, on a choisi des matériaux plus visuellement plus attrayants. On a essayé beaucoup de choses et on s'améliore d'année en année.
Mais tout ça dans l'objectif d'adapter les activités.
Oui. La plupart des activités, on les adapte, mais c'est pas des grosses adaptations, c'est pas des grands changements, mais c'est surtout des petits ajustements qu'on va faire. Comme par exemple, un enfant qui a de la difficulté à attraper le ballon, on s'empêchera pas de jouer au ballon chasseur pour ça. On va juste s'organiser pour que lui, le ballon, il l'attrape quand il roule ou quelqu'un l'échappe juste à côté, puis lui, il va vivre la réussite de l'attraper, le ballon. Mais c'est quelqu'un qui va avoir donné un bon coup de main. Et les personnes qui ont un frère ou une sœur qui a une trisomie 21, sont habituées de le vivre au quotidien. Donc, que ce soit avec son frère ou la petite amie d'à côté, ils savent comment les aider.
Ouais.
Donc, c'est plus facile de les inclure. Et les parents aussi vont intervenir des fois sur les enfants des autres, comme dans un village, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça fait que les enfants vivent des belles réussites.
Mais ça prend un village pour élever un enfant, hein?
Exactement. C'est ce qu'on essaie de reproduire aussi. Et souvent, les familles vont s'empêcher de sortir dans des activités comme ça parce qu'ils ont peur que leur enfant ne vive pas de réussite ou qu'il va être pointé du doigt ou que personne ne va l'aider. Mais là, ce n'est que des familles qui ont des enfants qui ont une trisomie 21. Donc, il n'y en a pas de barrière. L'isolement, elle est brisée facilement. Mm-hmm. Il y a des liens qui se créent aussi beaucoup d'échanges entre les familles. Les jeunes frères et sœurs, quand ils voient des grands frères et grandes sœurs, ils ont des modèles de réussite aussi. Donc, c'est une activité qui touche beaucoup de côtés, très intéressant.
Oui. En terminant, Geneviève, qui encadre les activités sportives?
Alors, on a on l'appelle notre coach, Cassandra, qui est en train de terminer ses études en récréation thérapeutique, qui est une formation à Concordia. Donc, elle a une formation avec les Olympiques spéciaux du Québec.
Ouais.
Elle connaît bien le défi de la pratique du sport là, pour une personne qui a une déficience intellectuelle. Donc, on est en plein dans son champ de travail de domaine d'intérêt. Et ça paraît, on a vraiment quelqu'un de vraiment très compétent.
Donc, ça débute le 12 janvier pour une session. C'est 80 $ de 18h30 à 20h30 jusqu'au 5 avril 2016. Est-ce qu'il reste de la place pour s'inscrire, Geneviève?
Oui, il nous reste encore 4-5 places pour de nouvelles familles. Ça va nous faire plaisir de les accueillir.
On glissera votre site sur le nôtre là, pour encourager les familles à aller vous voir, Geneviève Labrecque. Je rappelle, vous êtes directrice générale du regroupement pour la trisomie 21. Toujours un plaisir de vous parler, Geneviève.
Merci beaucoup, Marianne. Bonne fin de journée.
Bye-bye.
Bye.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, c'est Marianne Paquette au micro. Et puis, ben, ça nous a fait plaisir d'être avec vous pour cette première semaine de C'est bon pour la santé en 2016. Mais ça se poursuit dès lundi 16h. Nous serons là. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Bye-bye.